Histoire vivante, consacrée cette semaine à la CIA.
Histoire vivante, proposée par Irène Chaland et Jean Leclerc.
Cette semaine, en nouvelle diffusion, la CIA. L'agence, sa vie, ses œuvres.
Culture libre dans un monde libre.
Nous étions tous financés par la CIA, mais nous ne nous en doutons pas.
La mission de la CIA reste la sécurité nationale des États-Unis, légalement ou illégalement.
William Paley, fondateur de la station CBS, est l'un des créateurs de la CIA, membre du conseil d'administration du MoMA.
La planification et l'exécution des opérations devaient être organisées de façon à ce que la responsabilité des autorités américaines ne puisse pas être mise en cause.
C'est avec le plan Marshall et les fonds de contre-valeur que nous avons financé le Congrès.
En pratique, ça allait de la production de livres écrits de toutes pièces pour l'occasion, aux attentats contre les structures sociales et économiques, jusqu'au recrutement d'agents.
Où le dissident va-t-il trouver refuge? Qui s'intéresse à l'écrivain? Quelles sont les recrues visées? Que transmet-on aux services de renseignement? Quelles vont être les formes de l'offensive? Comment influencer l'art? Comment l'instrumentaliser? Quel art particulier va se retrouver précipité au cœur de la guerre culturelle? Ce sont là quelques-unes des questions qui seront abordées dans cet épisode en nouvelle diffusion intitulé « Un sous-marin culturel ».
Je vais vous transmettre une interview qui fera approximativement 4 ou 5 minutes. Je compte pour la gravure. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ici Cologne, un faubourg de Cologne où, dans sa villa de briques fraîchement sortie de terre, nous reçoit très aimablement Heinrich Böll, jeune homme de lettres allemand qui, depuis la guerre, s'est rapidement affirmé comme l'un des plus remarquables romanciers de la République de Bonn. Rentrer chez vous, Bögner, a valu à Heinrich Böll de se voir attribuer récemment le prix de la Tribune de Paris. Il s'agit d'un puissant et émouvant témoignage dépouillé d'artifice, qui nous campe un personnage, désemparé, c'est peu dire, presque perdu, ruiné, miné par la guerre. Personnage comme l'Allemagne en a connu des millions et des millions du fait de la guerre, mais laissons maintenant à son auteur le soin de nous en parler. Dans quelles circonstances, Monsieur Böll, avez-vous été amené à écrire « Bögner, rentrez chez vous » ?
Je me suis retrouvé en 45 à Cologne, ma ville natale, qui avait terriblement souffert de la guerre. Nous n'étions plus ici que 60 000. 750 000 habitants de cette ville avaient fui. Pourtant, la crise du logement était telle que c'était, pour cette maigre population, un problème extrêmement difficile et grave pour ses conséquences. Les foyers, les familles ont connu alors des épreuves qui ont souvent conduit à leur ruine. Ils étaient obligés de vivre dans des conditions telles que la désunion a fait des ravages. Il faut dire aussi que non seulement la crise du logement, mais aussi la dévaluation de la monnaie et d'autres facteurs.
Votre style est frappant par sa clarté, sa sobriété, sa puissance. Quelle a été votre école?
C'est difficile à dire. Bien sûr, dès la fin de la guerre, les romanciers allemands ont cherché à se débarrasser de certaines influences. Nous avons eu une rupture avec le passé. Les jeunes romanciers allemands ont cherché à faire du nouveau, si vous voulez, à faire en quelque sorte leur propre littérature, tout en subissant l'influence notamment de la littérature américaine et française et en restant fidèle à tout ce que la langue allemande présente naturellement pour nous d'attrayant et de riche. Je voudrais dire qu'à mon point de vue, nous avons trouvé pour notre style de nouvelles possibilités littéraires grâce à l'influence, à la pénétration en Allemagne de la littérature étrangère après la guerre.
Printemps 1974, les journalistes se bousculent pour être témoins d'un événement politique sans précédent. Le dissident Alexandre Solzhenitsyn, virulent critique de la mainmise de l'État sur la culture, vient d'être expulsé de l'Union soviétique.
Tout d'abord, dire notre remerciement à M. Solzhenitsyn, qui, d'une façon tout à fait exceptionnelle, a accepté de se prêter à ce dialogue et qui se livre ainsi à une conversation qui est, je crois, la première qu'il a eue dans ces conditions depuis son arrivée du RSS.
Наша с вами встреча обязано тому совпадению, что сейчас, в момент моего приезда в Париж, в издательстве «Сой» вышла моя новая книга.
Notre entretien est dû à la coïncidence heureuse entre mon arrivée à Paris et la publication de mon nouveau livre.
Вероятно, некоторые из вас ее уже читали, другие прочтут.
Sans doute certains d'entre vous l'ont déjà lu, d'autres le liront.
Нет необходимости мне поэтому ее как-то представлять.
Aucune, il n'y a pas de nécessité absolue pour moi de vous le présenter.
Однако, особенности жизни в Советском Союзе таковы.
Cependant, les particularités de la vie en Union soviétique sont telles,
что некоторые дополнения,
que certains additifs,
остались за пределами этой книги,
sont restés en dehors de ce livre.
Я просто приведу примеры.
Je vais donner quelques exemples.
Это передает атмосферу нашей жизни.
Car ces exemples rendent très bien l'atmosphère de notre vie.
В эту книгу, эта книга могла бы быть значительно полней, больше случаев и больше имен.
Ce livre aurait pu être bien plus complet, il y aurait eu bien plus d'épisodes et de noms mentionnés.
Я бы назвал, есть несколько разрядов фактов или событий, которые не могли быть включены в нее.
Il y a plusieurs registres de faits et d'épisodes qui n'ont pu être inclus dans ce livre.
Примером события из этого ряда,
un exemple de cet ordre,
является, например, подробная запись знаменитой кремлевской встречи вождей партии и правительства с писателями и художниками.
Sont les notes très détaillées que j'avais prises lors de la rencontre au Kremlin entre les dirigeants de l'URSS et les écrivains soviétiques.
Я, сидя на этой встрече два дня, подробно все записывал.
Lorsque j'étais à cette conférence pendant deux jours, j'ai noté très en détail tout ce qui s'y est passé.
Накал заседания во второй день был таков, что это приходилось делать за спиной сидящего впереди.
L'intensité dramatique des séances était telle qu'il fallait le faire parfois abrité par le dos, caché par le dos de celui qui était assis devant.
Хрущев непосредственно кричал не мне, там другому, кого заметил, а вы что, записываете?
Хрущев de temps en temps disait à quelqu'un, ou criait à quelqu'un plutôt, qui était pas à moi,
отберите
mais
у него карандаш.
Quelqu'un qui était assis pas très loin de moi, quoi, vous notez là-bas, ôtez-lui son crayon.
Эта встреча сама по себе достойна подробного описания.
Cette rencontre mériterait une description détaillée.
Западному человеку нельзя вместить это в голову.
L'homme occidental ne peut pas comprendre véritablement.
Чтобы все высшее руководство огромной страны,
que tous les hauts dirigeants d'un immense pays,
два дня сидело с писателями, художниками, скульпторами, актерами,
sont restés pendant deux jours en séance avec des écrivains, des sculpteurs, des compositeurs,
и учило их, как надо писать.
Et leur disait comment il fallait écrire ou sculpter.
En Allemagne, Solzhenitsyn trouve refuge auprès du prix Nobel de littérature 1972, Heinrich Böll. Pour Solzhenitsyn, aucun doute, l'Occident ne saurait comprendre. Mais l'Occident agirait-il selon d'autres critères? Moins brutaux, plus subtils, plus discrets. il ne sait pas que d'autres services secrets sont à l'œuvre de l'autre côté du rideau de fer et contrôlent ou tentent d'orienter la culture dans le bon sens de leur point de vue ou du point de vue de leur commanditaire. Or, la CIA s'intéresse précisément à Heinrich Böll et use d'un réseau d'influence secret pour s'attacher ses services. La CIA recrute des représentants de l'élite culturelle occidentale et les utilise pour mener sa guerre froide culturelle. Écrivains, musiciens, plasticiens, compositeurs, tous sont mis à contribution par les services secrets américains. La CIA prête une attention particulière à l'accueil de Solzhenitsyn par Heinrich Böll. Victor Böll, archiviste à Cologne.
Je me souviens très bien du jour où Solzhenitsyn a été déchu de sa nationalité et expulsé d'Union soviétique. Je prenais les appels dans le bureau de mon oncle à Cologne. En fin d'après-midi, un employé du ministère des Affaires étrangères a appelé pour dire que la première personne que Solzhenitsyn désirait rencontrer à son arrivée à l'Ouest, c'était Heinrich Böll.
Heinrich Böll avait-il pressenti que le refuge trouvé par Solzhenitsyn pouvait avoir été orchestré par les services secrets américains? Victor Böll.
Non, jamais.
Au cours de ses voyages en Yougoslavie sous le président Tito, Heinrich Böll est honoré comme l'ambassadeur d'une littérature indépendante de l'appareil d'État. Les interlocuteurs communistes de Böll ignorent sûrement que les rapports de voyage de l'écrivain sont transmis aux services de renseignement ouest-allemands et américains via une organisation chapeautée par la CIA, le Congrès pour la liberté de la culture.
Mesdames, Messieurs, la radiodiffusion télévision française vous prie d'écouter, en relais différé de la radiodiffusion italienne, un concert donné à l'auditorium de la radio au cours du Festival de l'œuvre du XXe siècle, dans le cadre du Congrès pour la liberté de la culture, avec le concours de l'orchestre de la radiodiffusion télévision italienne, sous la direction de Darius Milhaud et de Victor Desarzins, et de Suzanne Danco, soprano, et Joseph Fuchs, violoniste. Au cours de cette retransmission que nous devons à l'obligeance de la radio italienne et aux organisateurs du Congrès, vous pourrez entendre la 5e symphonie de Darius Milhaud, Sorkat de Erik Satie et deux œuvres présentées au concours de composition. Voici donc tout d'abord la 5e symphonie de Darius Milhaud, dirigée par l'auteur. Vous entendrez successivement Vivo, Lento Tenero, Chiaro Leggero, Vivace ed Energico.
À Berlin, en 1954, ce sont 19 nations qui sont représentées pour participer au Congrès pour la liberté de la culture.
L'élite intellectuelle mondiale se réunit à Berlin lors du congrès pour la liberté de la culture. Seront présents l'écrivain italien renommé Ignazio Cilone, Sidney Hook, professeur de philosophie à New York. Ce congrès international de trois jours s'est achevé par une manifestation publique sous la devise « Culture libre dans un monde libre ». L'écrivain Arthur Koestler a terminé par ces mots: il est temps de dire adieu à la neutralité.
Les intellectuels occidentaux ont quitté leur position défensive. Mes amis, la liberté passe à l'offensive.
L'offensive du Congrès pour la liberté de la culture commence fin des années 60 à Cologne, ville où réside Heinrich Böll. C'est ici que l'organisation de façade lance ses filets dans tout le pays. Le responsable secret du congrès à Cologne est l'éditeur Joseph Gasparowicz, ancien fonctionnaire de la culture sous le régime nazi. Après-guerre, Witsch fonde une maison d'édition qui propose un catalogue prestigieux. Reinhold Neven-Dumont, éditeur.
Und dann gab es noch eine Reihe von Büchern.
Plusieurs livres comportaient des zones d'ombre, non pas quant à leur contenu, puisque tout un chacun pouvait les lire, mais au niveau de leur financement. Il s'agissait d'ouvrages volumineux, dont la traduction avait dû coûter très cher. Or, il est peu probable que Joseph Gasparowicz avait les moyens à l'époque de proposer ses livres dans son catalogue sans un financement extérieur.
Comment dès lors l'éditeur pouvait-il financer de pareils ouvrages ? Reinhold Neven-Dumont.
La plupart d'entre eux provenaient des États-Unis. On songeait donc naturellement à une source américaine. Et on murmurait, sans le dire ouvertement, que le financement provenait de la CIA.
Heinrich Böll était édité par Joseph Gasparowicz.
Oui, il a choisi Witsch et il lui est resté fidèle jusqu'à sa mort. Les deux hommes étaient amis. Ils étaient très proches l'un de l'autre. Mais j'ignore dans quelle mesure Witsch a mis Heinrich Böll dans le secret du financement par la CIA. Et si c'est le cas, comment Böll a réagi? Je n'en sais rien.
Les rapports d'Heinrich Böll sur ses voyages à l'Est parviennent à Witsch et ainsi jusqu'au service secret. Witsch, ancien membre des SA sous le régime nazi, rencontre des artistes et des journalistes influents dans une résidence rattachée au Congrès pour la liberté de la culture. Le budget est alloué par une fondation fictive créée par la CIA. Parmi les personnalités que Witsch et Böll rencontrent à Cologne, l'ancien agent de contre-espionnage nazi et ancien sous-lieutenant DSS, Beret von Neudbeck, l'ancien agent de la Gestapo, Hans Otto Weismann, et la première garde de la radio et de la télévision allemande. Mais qu'avaient donc en commun ces gens de lettres et ces auteurs de premier plan? Sabine Brandt, directrice du congrès de 1959 à 1961.
Es verband sie der Wunsch.
Ils partageaient tous le même objectif que le congrès, à savoir la liberté culturelle. Tous n'étaient pas artistes, mais tous étaient impliqués d'une manière ou d'une autre dans la politique culturelle. Et nous étions témoins devant notre porte de ce qui arrive quand on ne se bat pas pour la liberté. Ça commençait à l'est de l'Allemagne. Les partis politiques n'ont pas pour principal objectif la sauvegarde de la culture, même si c'est inscrit dans leur programme. Les partis politiques ont quantité d'autres objectifs. Le risque aurait donc été qu'un tel choisisse tel parti, un tel tel autre, et qu'au final on se déchire au lieu de s'unir. Après la mort de Boris Pasternak, le régime soviétique a fait arrêter Olga Ivinskaya, la muse de l'écrivain, sans doute pour lui faire payer les méfaits reprochés à son compagnon décédé. Notre centrale de Paris nous a fait parvenir un texte en me demandant de le faire signer par des personnalités importantes et de le publier. J'ai appelé Böll, qui faisait partie du congrès, et je lui ai lu le texte. Je lui ai demandé s'il acceptait de le signer et il a répondu « Évidemment ». Et le texte a été publié. Nous étions tous financés par la CIA, mais nous ne nous en doutions pas. Nous recevions de l'argent de la Fondation Ford, laquelle était en réalité financée par la CIA. Cela dit, si je l'avais su à l'époque, cela ne m'aurait pas choqué. Je me serais dit « La CIA dépense enfin son argent pour une noble cause ».
Des sommes colossales sont engagées pour influer sur l'art et la culture européenne. Financer des congrès onéreux, telle une grande manifestation à Berlin-Ouest. Des manifestations financées par des dizaines de fondations américaines. Ces fondations font transiter l'argent de la CIA à la Centrale européenne du Congrès pour la liberté de la culture, basée à Paris. Tom Braden, ancien agent de la CIA.
Nous prenions contact avec une personnalité très riche de New York. On lui disait qu'on voulait créer une fondation. On lui expliquait nos objectifs et on lui demandait de garder le secret. La personne s'empressait d'accepter. On éditait du papier à son en-tête et voilà, la fondation était créée. C'était un dispositif très simple.
Les fonds dispensés par la CIA sont avant tout destinés à alimenter la gauche anti-stalinienne. La maison d'édition Veitch s'impose tout naturellement. Le catalogue répond aux exigences de la CIA, un cercle d'écrivains restreint mais extrêmement influent. Les auteurs doivent se faire les apôtres de la liberté individuelle et des valeurs libérales. La critique envers les États-Unis est tolérée, mais elle ne doit pas être trop virulente ni s'accompagner de sympathies communistes. Carol Ashtern, ancien agent américain et ami de Böll, travaille alors comme lectrice. La CIA recherche des intellectuels indépendants de l'appareil politique de leur pays afin de les mobiliser en faveur des intérêts américains. Et Heinrich Böll a le bon profil. C'est un modéré de gauche, anticlérical, et il prône, de plus, les valeurs occidentales. Erich Mitt-Enbaum, journaliste, spécialiste des services secrets.
Il avait le profil exact recherché par la CIA pour réussir son ambitieux programme d'infiltration de la totalité du milieu culturel de gauche en Europe. Un programme qu'elle avait lancé à la fin des années 40. À l'aide de fonds et de moyens secrets, amener les intellectuels européens critiques et socialement engagés à diffuser l'idéologie américaine. Ou bien, comme le formule une directive de la CIA, telle une araignée dans sa toile, contrôler l'ensemble de la vie culturelle européenne afin qu'elle ne s'oppose pas à la libre entreprise et à l'économie de marché propre au système américain.
Tom Braden, ancien agent de la CIA.
Nous voulions unir les écrivains, les musiciens, les peintres, ainsi que leur public. Des gens comme vous et moi, qui vont au concert et visitent des expositions afin de montrer que l'Europe de l'Ouest et les États-Unis étaient très attachés à la liberté d'expression ainsi qu'à l'accomplissement intellectuel et qu'ils refusaient d'imposer aux intellectuels et aux artistes des diktats quant à ce qu'ils devaient écrire, dire, faire ou peindre comme c'était le cas en Union soviétique.
Par l'entremise de sa fondation de façade, la CIA entame en 1952 son offensive européenne avec un programme culturel des plus fastueux. L'Orchestre symphonique de Boston ouvre à Paris le festival du XXe siècle en présence du président de la République Vincent Auriol. Après le Sacre du printemps de Stravinsky, les musiciens interprètent des œuvres de William Watson et d'Alban Berg. La campagne américaine pour la promotion de la musique atonale et de la peinture abstraite commence au Théâtre des Champs-Élysées. Le financement occulte de cette manifestation est assuré par la CIA et le Congrès pour la liberté de la culture. Pierre Gromyot, sociologue, historien.
C'est une manifestation assez impressionnante, fastueuse, d'ailleurs qui a été critiquée parce que dans un pays qui se relevait de la guerre, comme la France de l'époque, c'était peut-être un petit peu trop fastueux, mais la pointe était très claire. C'était deux choses. D'une part, soutenir l'art moderne contre le dénigrement et même les attaques contre l'art moderne dans la musique, dans la peinture, etc., qui venaient aussi bien du nazisme que du communisme à l'époque. Et deuxième message, tout aussi important, c'est de montrer que les États-Unis n'étaient pas seulement un pays de culture de masse, de Coca-Cola et de musique vulgaire ou populaire, mais qu'elle était le support de la modernité asphyxique.
La campagne culturelle que la CIA mène en Europe est étrangement en contradiction avec la sensibilité culturelle qui prévaut aux États-Unis. Aux États-Unis, bien des artistes ou des scientifiques sont l'objet de poursuites et d'accusations. Arthur Miller, Charles Chaplin, Philip Morrison, Thomas Mann. L'antenne allemande du Congrès pour la liberté de la culture considère Thomas Mann comme un ennemi de la modernité occidentale. On recommande qu'il ne soit pas invité au festival du XXe siècle de Paris. Pierre Gromyot.
C'est de construire une communauté intellectuelle euro-atlantique et c'est de trouver les moyens d'établir avec les créateurs qui sont soit dans les démocraties, essentiellement dans les démocraties populaires d'ailleurs, d'Europe centrale, des voies d'échange intellectuel authentique, non bureaucratisé et non pollué aussi par la lutte idéologique. Je dirais que le Congrès pour la liberté de la culture, en résumé, ce sont les belles années de l'Amérique libérale de l'après-guerre.
In the early 1950s, popular music belonged to the realm of wholesome white performers, such as Perry Como, Doris Day, and Gail Storm. The songs they sang were designed to be as innocent and inoffensive as possible. For the most part, this music reflected the taste of a growing white middle class, enjoying the fruits of post-war prosperity and progress.
Papa, won't you dance with me? Please dance with me. Oh, dance with me. When you hold me tight. Oh, Papa, won't you dance with me?
Cet épisode en nouvelle diffusion était intitulé « Un sous-marin culturel ». Demain, la suite de cette évocation de la CIA, une réalisation de Jean-Philippe Svalen.
Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Réalisation, Jean-Philippe Zvalon. Assistana de production, Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez la première, il est 14h.